aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi, sur Sud Radio.
Après Gérald Bronner, mon invité pour son livre sur les coïncidences, donc aux éditions Vuibert, nous continuons notre deuxième heure dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le témoignage d'un monsieur qui a vécu une NDE qui a complètement bouleversé sa vie et à un point extrêmement intéressant, nous allons en parler avec lui immédiatement. Gérard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange. Pendant les trois petits quarts d'heure qui nous restent, nous allons découvrir votre expérience, cette expérience que vous avez vécue et ce que ça a entraîné comme transformation dans votre vie. Alors, vous habitez la région Aquitaine.
Voilà, tout à fait. J'habite Bordeaux, oui.
Pour vous situer un petit peu. Et on va commencer par l'événement qui a bien entendu bouleversé votre vie, c'est-à-dire cette expérience de mort imminente que vous avez vécue. Cela s'est passé il y a combien de temps ? C'était en quelle année ?
C'était en 1971, donc vous voyez, ça fait donc 37 ans.
Oui, effectivement.
Ça remonte loin. Et en fait, j'ai mis presque 30 ans pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé.
Ah, tout de même, donc la maturation a été longue hein, quand même.
J'ai eu le choc et ensuite j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé, ce que j'ai vu et pourquoi et comment. Voilà, donc ça a mis du temps, mais vous savez, quand on travaille là-dessus, c'est pas évident à trouver une solution.
Ah, j'imagine. Et puis bon, travailler sur soi-même n'est pas évident non plus. Quoi. Donc il faut du temps, tout simplement. Alors, racontez-nous dans quelles circonstances et comment avez-vous vécu cette expérience de mort imminente?
Donc ça se passe en 1971. À cette époque-là, bon, j'étais électronicien et je devais faire une intervention sur un pont roulant. Et je me suis apprêté donc à dépanner ce pont roulant et malheureusement, je n'ai pas coupé le courant.
C'est quoi un pont roulant ?
Un pont roulant, c'est une espèce de monte-charge, vous savez, qui roule sur des grands rails pour monter des charges. Bon, c'était dans une grande usine où il y avait à peu près 50 personnes. Mm-hmm. C'est une usine de mécanique générale, donc il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de matériaux par terre. Mm-hmm. Donc je me suis apprêté à dépanner ce pont roulant, et à cette époque-là, il n'y avait pas de fil électrique, ça s'appelait des trolleys, c'est-à-dire que le courant passait à partir de rails et des trolleys.
D'accord.
Et quand je suis monté, donc je vous ai dit, je n'ai pas coupé le courant, je pensais à autre chose, mais c'est l'accident, hein, c'est toujours comme ça. Et quand je suis arrivé là-haut, j'étais à peu près à 4 mètres de haut.
Oui.
J'ai pris un rail donc électrique et je me suis agrippé sur un rail métallique et c'est là où j'ai pris le courant.
Ouf, oui.
Donc j'ai pris du 380 volts entre deux bras.
Oui.
Et c'est là j'avais déjà été électricien une fois, donc je savais ce que c'était.
Mm-hmm.
Parce que quand ça arrive, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu comme si on était pris par deux lions, hein, pour vous dire le mal que ça fait, c'est comme si on avait une image de comme si on était déchiqueté par deux lions affamés, voilà.
Ah oui, ça doit être extrêmement douloureux, donc j'imagine.
Très, très violent, très douloureux, oui, tout à fait. Et j'étais conscient, donc je subissais cette douleur, et j'étais conscient, et je savais que les quelques secondes, pour parler en secondes, je savais que si personne venait me décrocher, couper le courant, je savais que je devais y passer. Donc, à ce moment-là, j'ai pensé à ma mère, j'ai dit, je n'ai pas le droit de mourir pour elle. Donc, il est venu une espèce de force supplémentaire, de conscience supplémentaire pour dire, oui, je veux vivre.
Ouais.
Et là, j'ai vu défiler des images. Alors, ce sont des images, d'abord, les premières images, ce sont les images de sa vie. C'est un compte à rebours, c'est-à-dire, on revoit sa vie qui redescend sur les premières années. Donc, ça va très, très, très vite, hein.
Oui, mais vous avez, attendons-nous quelques instants sur ces images qui ont dû, bon, tout ça s'est déroulé en quelques secondes, on est d'accord, hein.
Je suis resté à peu près une trentaine de 30 secondes électrifié.
Ah, quand même?
Ah, c'est très long, très très long. Oui,
ah oui, j'imagine, la douleur en plus, enfin, ça doit être l'enfer pendant 30 secondes, effectivement.
C'est l'enfer, et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir, donc j'ai pas perdu connaissance, j'ai pu crier très très fort pour dire où il fallait le couper, où est-ce qu'il fallait couper le courant.
Oui.
Je ne suis pas tombé comme une masse. Bien souvent, électrifié, on tombe comme une masse. Et puis quand on tombe, bon, malheureusement, on subit des choses.
Bien sûr, oui, alors, oui, des chocs, oui, oui. Alors, voilà. Ces images qui ont défilé devant vos yeux, c'était c'était toute votre vie, c'est-à-dire comme si on repassait un film à l'envers, ou voilà, c'était oui. Des moments particuliers, des moments forts, des moments forts en affection, forts en émotion.
Voilà,
c'était quoi exactement?
Voilà, ce sont des images très fortes qui me rappellent de l'enfance, des choses très très émouvantes.
Oui.
Mais ça va très très vite. Bon, il y avait cette chose là et ensuite j'ai vu trois types d'images, hein. Donc celle-ci bon qui est tout à fait normale parce que ce sont des images qui sont à mémoire dans notre cerveau.
Oui.
Ensuite,
oui.
J'ai vu des images composites, c'est-à-dire comme je savais que j'allais mourir, j'ai vu mon enterrement.
Ah bon?
J'ai vu carrément l'enterrement, mes parents derrière, les invités, enfin les gens qui venaient donc comme l'enterrement.
Ouais.
Alors ça, ce sont des images construites parce que je savais que si je ne parvenais pas à faire couper le courant, mm-hmm. ce serait passé.
D'accord.
Donc je dis composite parce que c'est le cerveau qui
met
en place toutes ces images.
Ouais.
Voilà. Et l'autre image, c'est une espèce de boule, une boule en rotation. Une boule de comme une boule de feu en rotation. Là, j'en sais pas plus. Alors ça, c'est une image. Alors je considère aujourd'hui, je peux considérer par rapport à mes études, qu'en fait c'était des images qui sont en réserve. Ce sont dans le monde, parce que là on rentre carrément dans le monde quantique. Hein, on est carrément dans la mémoire du quantique.
Là, c'est votre interprétation. C'est ce que vous en avez déduit.
Voilà, c'est mon interprétation. Mm-hmm. Et si suite à tout ça. J'ai essayé de comprendre donc comment fonctionnait tout ce monde quantique.
Mm-hmm.
Et c'est la raison pour laquelle ensuite j'ai fait des recherches sur la création du monde, sur la création des particules.
D'accord. Alors, continuons à découvrir donc cet incident que vous avez vécu. Vous avez réussi à alerter les gens et à leur dire où est-ce qu'il fallait couper le courant malgré cette décharge de 380 volts parce que quand on est électrifié comme cela, les muscles doivent être tétanisés, j'imagine,
ah oui.
Non
c'est, Ah oui, on est tétanisé, on est complètement paralysé.
Ouais.
On a la pulsation, le cœur qui bat à 50 périodes par seconde, non pas par minute. Hein.
Ah oui,
donc tout est bloqué, on est complètement paralysé et les cordes vocales normalement, les cordes vocales tout est paralysé.
Oui.
Et j'ai pu crier mais alors très 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 fort parce qu'il fallait que je couvre le bruit. C'est une usine donc je vous disais c'est une usine de mécanique générale donc il y a des tours, il y a des fraiseuses, il y avait tout ce genre de machines qui fonctionnaient.
Oui.
Donc j'ai couvert l'ensemble de l'atelier et j'ai couvert de ma voix, j'ai pu crier et là une personne a entendu. Bien sûr, à lever les yeux et est allé couper le courant.
Ouais.
Et temps, c'est vraiment oui.
Vous vous êtes affaissé. Est-ce que vous avez perdu connaissance après ça ou
Alors justement, je n'ai pas perdu connaissance. Je suis descendu tout seul de cette échelle.
Ah bon?
Tout seul. Et là, quand je suis arrivé en bas, j'arrivais de la mort, quoi. J'arrivais de.
Ah oui.
J'étais conscient de ce qui s'était passé et carrément. Et là, je me suis mis à tourner sans vouloir voir qui que ce soit. Je me suis mis à tourner, marcher. J'ai marché pendant au moins un quart d'heure. Et j'avais très très mal à la poitrine, parce qu'imaginez les poumons, le cœur, tout ça qui vibrait.
Ouais.
Donc j'ai eu énormément mal à la poitrine pendant à peu près un mois. Et ensuite je me suis aperçu que les images devant moi n'étaient plus, par exemple quand lorsque je montais un escalier, les images étaient convexes, c'est-à-dire que tout était courbé.
Ouais.
Mes images étaient courbes.
Ouais.
Donc j'ai passé des examens, on n'a rien trouvé. Et puis à peu près un mois à peu près, c'est redevenu normal.
D'accord, parce que j'imagine que votre cerveau a également pris cette décharge électrique, bien entendu.
Le cerveau aussi. Alors malheureusement, il y a eu certainement des neurones qui ont dû prendre feu entre guillemets.
Oui, griller quoi, enfin vraiment.
Carrément griller, et c'est la raison pour laquelle depuis cette époque, j'ai des difficultés à mémoriser certains mots.
Oui. Mmh.
Et je crois qu'il s'est passé quelque chose d'autre, c'est-à-dire que j'ai modifié mon comportement dans la société, parce qu'il fallait vivre aussi avec tout ça.
Oui.
Et j'ai développé une sorte d'intuition et de pouvoir d'imagination et de pensée.
Mm-hmm.
Voilà, donc à partir de cette époque-là, c'est venu progressivement, hein, donc j'ai pensé autrement.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que vous avez vécu une expérience de mort imminente, parce que vous avez tout le temps été conscient, enfin je veux dire une NDE telle qu'on la qualifie de manière classique, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt, vous savez ce tunnel, ensuite la rencontre avec la lumière et le retour. Vous non, vous avez été réellement conscient de bout en bout de cette expérience.
Voilà, tout à fait. Voilà, moi j'ai pas eu ce tunnel là. Mm-hmm. Donc j'étais proche de la mort parce qu'en fait
oui clairement
il y a des choses qui se sont passées parce qu'en fait, quand on arrive entre les deux extrêmes, entre la vie et la mort, il se passe des choses. C'est comme la création de l'univers, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, il se passe toujours quelque chose. Mais la chance que j'ai eue, c'est sûr, c'est une grande chance de ne pas avoir vu le tunnel, parce que si j'avais vu le tunnel, j'aurais été inconscient et là, il se serait passé des choses. D'abord, j'aurais pas pu crier.
Oui, exact.
Et d'autre part, quand les gens auraient coupé le courant, je serais tombé comme une masse sur les bouts de ferraille qui étaient par terre.
Oui, vous auriez chuté de 4 mètres.
Ah, comme 4 mètres, oui. Puis là, je serais tombé sur des bouts de ferraille et très certainement, soit handicapé ou... Ou mort, parce qu'en fait, ça va très vite.
Hein. Ouais. Mais quelle a été la réaction des gens autour de vous? Parce que quand vous êtes redescendu tout seul, ils ont dû, être absolument suffoqués, estomaqués, vous considérez comme un miraculé quasiment.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, les gens, quand je leur parle des fois, parce que j'en parle très très peu de cet accident, les gens ont tendance plutôt à rire d'un accident, de tel accident.
Oui.
Parce que j'ai un peu les cheveux frisés et de suite on voit le personnage prenant le courant avec les cheveux tout qui partent en l'air et, les gens ont une image plutôt de rigolote que de pitié sur mon accident. Les gens m'ont vu sortir, enfin m'ont vu arriver sortir du fait que j'étais debout. Pour eux, il s'était rien passé.
Ah oui, ils n'ont pas eu conscience de la violence du choc.
Ah pas du tout, non pas du tout. Ouais. Et mon entourage, non, c'est du fait que je pouvais marcher, parler, j'avais pas de séquelles physiques, donc ça paraissait pas. Donc pour eux, j'ai tout à fait, il s'était rien passé.
Oui.
Alors que ma souffrance était que je disais tout à l'heure, par exemple, à deux lions qui étaient affamés sur moi, les lions une fois partis, j'aurais eu plus de bras ou j'aurais été tout en sang. Là, on aurait dit il a souffert, mais dans ce cas, non.
Oui. Mais c'est curieux, oui. Après cette vous n'avez pas fini l'intervention, j'imagine. Vous êtes reparti, mais vous avez eu la force de prendre votre voiture, de retourner à votre boulot.
Ce que j'ai fait, je suis parti à mon domicile, je suis allé voir un médecin.
Ouais.
Et le médecin m'a dit que du fait que j'étais en vie, il n'y a pas de problème. Donc je suppose que j'avais un cœur qui tenait bien.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça.
Des fois c'est très critique, parce qu'en fait des fois le fait de prendre le courant, il suffit de tomber dans une mauvaise période de pulsation cardiaque et vous pouvez très bien faire une syncope rien que pour une décharge électrique.
Oui.
C'est très, il y a une chance inouïe. C'est vrai que la façon dont ça s'est passé, c'est vraiment une chance de pouvoir parler aujourd'hui, quoi.
Oui, effectivement. Là, vous avez mis physiquement un mois pour vous en remettre, hein?
À peu près, oui, un mois, oui.
Ouais, d'accord. Et ensuite, vous avez repris votre travail, votre vie de tous les jours, j'imagine, normalement.
Tout à fait. Alors, le travail, je l'ai repris le lendemain pour vous dire, il n'y a pas de problème. Je souffrais, mais en fait, c'était soutenable non plus. Donc, j'ai repris mon travail le lendemain, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait comme si il s'était rien passé, bien sûr.
Ouais.
Mais, ce qui s'était rien passé, c'était pas évident, parce que le fait de reprendre une activité professionnelle qui touche l'électricité et l'électronique, l'électronique, c'est pas trop dangereux parce que c'est les basses tensions, mais quand il s'agissait de l'électricité, bien sûr, là, c'était plus délicat parce qu'il y avait ce côté d'électrification qui reste. Et c'est vrai qu'on a des images qui restent gravées toute sa vie, de l'électrification. On a une appréhension quand on voit quand on est approche du courant, on a cette appréhension d'électrification.
Oui, j'imagine bien.
Que j'ai toujours d'ailleurs.
Oui. Bah, pour le moins. Ça paraît tout à fait,
voilà, oui, oui.
Tout à fait normal et naturel. Gérard, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer cette conversation ensemble dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et comprendre jusqu'à quel point cette expérience douloureuse a transformé votre vie et vous nous ferez part de vos réflexions, de ces 30 ans d'introspection et ce que vous en avez retiré finalement. Et je vous demanderai après si finalement pour vous ça a été positif ou négatif comme expérience. Hein? Allez, à tout de suite.
Oui. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Gérard est avec nous sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange pour nous faire part d'un témoignage pour le moins intéressant, curieux et évidemment riche en ce qu'on peut apprendre sur soi-même après avoir vécu donc cette électrification, cette électrocution. On peut dire que c'était une électrocution quand même, Gérard.
Mais c'est-à-dire qu'on dit électrification quand il n'y a pas de décès,
oui.
Et électrocution quand il y a décès.
Ah oui, donc électrification, voilà. C'est mieux alors.
Hein? Voilà, donc comme je suis encore vivant, c'est électrification.
Oui, il vaut mieux, je suis d'accord avec vous. Vous avez mis 30 ans, vous nous l'avez dit, pour comprendre ce qui s'était passé. Première question, est-ce qu'avec le recul, maintenant, puisque ça s'est arrivé, cet incident, vous l'avez vécu en 1971, est-ce qu'avec le recul, vous considérez que c'est une expérience qui a été bénéfique ou pas?
Je pense, oui, bénéfique. D'une part, déjà, parce que c'est vrai que je suis des fois la tête en l'air. Donc, ça m'a permis de remettre en question. Mm-hmm. Parce que comme c'était mon métier, il fallait que je fasse attention. Donc, déjà, d'une part, ça me mettait en question en disant, il faut que je fasse attention.
Oui.
Et d'autre part, le côté bénéfique, c'est que j'ai pu, par cette expérience, devenir peut-être quelqu'un d'autre, différemment, plus posé, pensif, m'interrogeant donc sur les grandes valeurs sur l'humanité, d'où venons-nous, voilà, ces grandes questions-là sont plus proches de l'homme.
Oui. Avant, vous n'aviez pas ce genre de questionnement. Avant cet accident, vous n'aviez pas ce genre de questions dans la tête.
Non, pas du tout. C'était bon, tout le monde s'est posé la question. Oui. Vous savez, quand on regarde le ciel,
oui.
Les étoiles, bon, on se pose toujours la question. Mais pas si fort qu'après cet accident.
Ouais. Et ces questions ont commencé à émerger en vous combien de temps après cet accident?
Ça s'est fait progressivement. En fait, c'est venu progressivement parce que par rapport à cet accident, les gens pensent toujours on a fait quand ils ont eu le seuil de la mort. Beaucoup pensent qu'on est allé dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on a vu, on a été dans un autre monde parallèle. On a vu des choses, ceci, cela.
Oui.
Et pour moi, je suis allé dans l'un des ça, c'est-à-dire dans l'infini en petit. J'ai rencontré ce monde quantique.
Mm-hmm.
Et par rapport à ça, par rapport à mon métier, j'ai pu déjà m'identifier par rapport à ce monde quantique de l'infini en petit à l'électron.
Oui.
Et par rapport à cet électron, j'étais capable donc de me mettre à la place de l'électron. Et cette démarche me permettait de pouvoir comprendre des phénomènes des réseaux électroniques ou électriques, et ça permettait donc de pouvoir dépanner très 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 vite.
Alors, donnez-nous un ou deux exemples pour qu'on comprenne bien. Ça, vous avez commencé à le comprendre combien de temps après cette électrification?
À peu près 7-8 ans.
Voilà, ah oui, quand même.
5-6 ans à peu près, oui. Oui.
Oui. Ah oui, il a quand même fallu du temps quand même avant que
c'est parce que là, je vous dis, s'identifier à un électron, je ne sais pas si,
oui,
je sais pas s'il a comprendre, mais c'est pas évident.
Oui.
Vous vous rappelez peut-être ce film qui était sorti, je ne sais pas en quelle année, ça s'appelle Electron.
Ou Tron plutôt, non?
Tron.
Oui, voilà, oui, exact.
Voilà.
Oui.
Et en fait, c'est se mettre à la place de l'électron, c'est s'être s'identifier à un électron, c'est très... Enfin, c'est difficile à imaginer, mais ce fait de se mettre à la place de cette chose-là, et comme un acteur se met à la place d'un personnage, pareil, pour mieux le comprendre.
Ouais.
Et moi, j'ai essayé de faire pareil.
Et alors, ça s'est manifesté comment au début?
Et d'abord, je pensais, je m'apercevais que je pouvais réaliser des dépannages beaucoup plus vite. Donc au départ, vous savez, on pense que c'est le hasard. On dit, bon, mais c'est le hasard, et puis, bon, c'était facile. Et puis, dans le cours des années, mais c'est plus de hasard, puisqu'en fait, c'est devenu tout à fait rationnel.
Alors, citez-nous un exemple que l'on puisse, pour que l'on puisse comprendre exactement comment c'est, vous fonctionniez.
Mais quand, par exemple, quand il y avait une panne, au lieu de prendre les plans, la plupart du temps, on prend un plan et puis on essaie de comprendre le circuit. Et moi, je réfléchissais, je me mettais dans la place de l'électron, je passais dans ce fil. Et le fil donc allait sur des circuits capacitifs ou selfiques. Et par rapport à ça, j'avais des réponses qui venaient très très vite. Mmh. Et en faisant de ce principe-là, j'avais dans les 5 minutes, j'avais un résultat.
Ouais. Il fallait que vous vous mettiez à côté de la machine à réparer, par exemple.
Ah non, pas du tout. Non, c'est pas non. Parce que j'ai fait beaucoup de maintenance par téléphone.
Oui.
Parce que je travaillais dans une grande entreprise à une époque et j'étais souvent astreinte la nuit.
Oui.
Et je pouvais dépanner par téléphone en me disant, les personnes me disaient, les opérateurs me disaient ce qui se passait. Et je leur disais, bon, mais il faut aller à tel endroit, et voilà. Donc ça se passait très très vite par téléphone sans. Oui, donc ça pouvait se faire à distance, il n'y avait pas de problème.
Mmh. Et, c'était quoi comme genre de machine? C'était de l'électronique comme des ordinateurs? C'était plutôt des grands systèmes électriques de bâtiments, d'usines? C'était quoi?
C'était des machines pour de matériaux composites. Donc c'était des machines où il y avait donc des parties électroniques, des parties électriques, ouais. Des gros ensembles, voilà.
Mmh. Des machines d'entreprise, quoi.
De quoi c'est entreprise, voilà, d'entreprise, oui, de fabrication. Hein.
Oui, d'accord. Donc, voilà. On imagine, grosse machine, quoi.
Voilà, donc j'ai fait ça à peu près, j'ai dû faire ça à peu près une vingtaine d'années, parce que ce phénomène-là, malheureusement, ben, ça a déplu à un chef de service. Un jour, ça lui a déplu et il m'a mis carrément, il m'a renvoyé, enfin, il m'a pas licencié parce que dans cette entreprise, on ne licencie pas, mais il m'a muté dans un autre service.
Mmh.
Parce qu'il a trouvé que c'était anormal que je dépanne si vite. Et que si je dépanne si vite, c'est que ben, c'est moi qui mettais les pannes.
Ah oui, carrément. Oui.
Carrément. Donc, j'ai été muté, j'ai rien dit. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et depuis cette époque-là, je n'ai plus touché d'électricité ou d'électronique.
Mmh. Mais vous le sentiez, c'est-à-dire que quand vous dites vous le sentiez, quelqu'un vous appelait, il dit voilà, la machine 12 est tombée en rade, on a un problème électrique, qu'est-ce que ça peut être? Vous faisiez mentalement le parcours, même sans connaître forcément la machine?
Là aussi, il fallait connaître un petit peu la machine, parce qu'on est obligé de connaître les circuits, mais c'est vrai que c'est un travail mental, oui.
Mm.
Mais il faut connaître. Moi, j'essayais de connaître déjà la machine et les hommes qui utilisaient la machine.
Ah,
c'était les deux paramètres.
Ouais.
Parce que sachant, quand j'étais d'astreinte, je me renseignais toujours qui étaient les opérateurs qui travaillaient sur les machines parce que je savais que chaque individu était capable de mettre en... Suivant la façon dont on travaillait, ils avaient des possibilités de mettre en panne la machine.
Ah oui, d'accord. Vous connaissiez leurs failles, leurs faiblesses.
Voilà, donc pour moi, c'était nécessaire de connaître la machine d'une part et les hommes aussi.
Ouais. Et quand vous dites, là je me fais un peu l'avocat du diable hein, avec à travers la question que je vais vous poser, mais quand vous dites que je me mettais à la place de l'électron et je remontais le circuit comme un saumon remonte une rivière finalement.
Oui, c'est ça, exactement, oui.
Pour trouver le lieu de la panne, je leur disais, bon ben voilà, c'est ça, et vous leur donniez les instructions. Est-ce que c'était pas dû plutôt à une capacité, une excellente capacité que vous aviez, à une, connaître la machine sur le bout des doigts, deux, connaître l'homme, et de manière inconsciente, votre cerveau, vous-même, aviez la capacité, par déduction, de tomber pile poil, mais sans passer par cette imagerie, c'est-à-dire, je deviens un électron et je remonte le courant.
Vous avez tout à fait raison, c'est ça, c'est le pouvoir de... Ça me permettait, moi, ce circuit me permettait de pouvoir mieux penser. Voilà, et ça permettait de mieux penser. Donc ensuite, tout s'articulait. Ce sont des connexions qui se font, hein, comme dans un circuit informatique. Vous avez les connexions qui se font pour arriver à un tel programme.
Oui.
Et là, je crois que cette façon de faire, ça me permettait de mieux penser et d'arriver plus vite au raisonnement. Voilà, c'est ça, vous avez raison.
Oui. Quel était votre pourcentage de réussite de dépannage durant toutes ces années, en moyenne?
Ah ben, j'ai toujours pu dépanner, oui.
Mm-hmm.
Oui, j'ai toujours pu dépanner.
Vous n'avez jamais séché, par exemple, en disant, bah, écoutez, là, je peux rien pour vous, on vous envoie une équipe
demain.
Non,
ça m'est jamais arrivé. Bon, il est sûr, des fois, ça m'est arrivé de passer beaucoup plus de temps.
Mm-hmm.
Mais sinon, ma passion, en fait, c'était de chercher. Donc, une panne m'intéressait, et plus la panne était importante, mieux je me portais, parce que j'aimais dépanner.
Oui, oui, oui. Plus elle était difficile, et plus c'était excitant, quoi, évidemment.
Voilà, tout à fait, oui. Mais des fois, c'est la petite panne qui fait passer le plus de temps possible.
Oui, ça, j'imagine bien.
C'est...
Mm-hmm. Et est-ce que, selon vous, vous avez toujours cette capacité? Parce que là, vous dites, ça fait plusieurs années que je n'ai plus touché quelque chose d'électronique, d'électricité, enfin de dépannage, quoi. Est-ce que vous sentez en vous que vous avez encore cette capacité ou elle s'est éteinte?
Mais comme je l'utilise plus, je ne peux plus savoir. Mais par contre, j'ai utilisé ce phénomène de l'infini en petit, me mettre à la place de l'infini en petit.
Mm-hmm.
J'ai utilisé ce procédé pour aller, non pas dans l'électron, mais aller dans l'univers. Et j'essaie de mettre à la place dans la particule, la plus petite des particules, pour remonter le temps, pour redéfinir la création de l'univers.
Mais
c'est une autre démarche.
Tout à fait. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants. Parallèlement à ça, à toutes ces questions humanistes, existentielles, dont vous nous avez parlé, ça a émergé comme ça, tout doucement, au bout de 7-8 ans, avec cette capacité que vous aviez à mentalement remonter les circuits électriques. C'est en parallèle? C'est arrivé en parallèle, toutes ces questionnements?
En parallèle, oui. Tout se faisait en parallèle, oui. Oui, mm-hmm. Oui. Mais du fait que j'avais perdu, moi, sur mes capacités de mémoire, mais j'essayais d'appréhender la vie différemment, et par ce mode de pensée, ça m'apportait autre chose.
Oui.
On s'adapte ben, par rapport à ce qu'on est, par rapport à l'environnement.
Mm-hmm.
Et je crois que tout homme s'adapte dans ces circonstances, et il faut vivre, donc ben, on prend le dessus. Eh.
Oui. Quand est-ce que, parce que vous êtes artiste actuellement, vous faites de la sculpture, quand est-ce que ça a émergé, ça? Cette envie, comme ça, de traduire un certain sentiment, des émotions, par la sculpture, par l'art?
Mais je sculpte déjà depuis l'âge de 7 ans, donc j'avais ça déjà en moi.
Ah, donc déjà, vous l'aviez en vous, ça, d'accord.
Voilà, ça, je l'avais à moi. Bon, j'ai toujours fait du dessin, de la gravure, mais c'est les années, vers les années 1985, bon, j'ai fait la première statuette en carbone-carbone, hein, qui est née à 3000 degrés. Bon, en fait, c'est un défi technologique, hein, parce que personne ne voulait me croire sur un procédé de réalisation industrielle. Donc, j'ai fait de l'art. Et puis, progressivement, alors l'avantage de cet art, c'est qu'à cette époque-là, je travaillais le carbone.
Mm-hmm.
Et le carbone, c'était du carbone, fallait réaliser ce matériau. Et le carbone est issu du pétrole, donc il fallait extraire des atomes de pétrole soit du pétrole ou de houille.
Mm-hmm.
Et ce matériau remonte le temps, parce qu'en fait, ça date des planctons. Vous rendez compte, c'était avant les dinosaures.
Mm-hmm.
Et c'est toute une histoire. Et le fait d'avoir créé de la sculpture à partir de carbone, ça m'a replongé encore dans cette histoire de l'infiniment petit et remonter le temps.
Mmh. Mais alors, ça consiste en quoi, finalement, cette matière, le carbone, ça se présente comment? Comme un bloc qu'on taille, qu'on lime, qu'on coupe, comme un sculpteur normal, ou ça se travaille différemment?
Ah non, pas du tout, c'est pas l'image du sculpteur, en fait, c'est plutôt concepteur.
Oui.
Parce que les premières sculptures, ce sont des fibres courtes. Dans les fibres courtes, c'est imaginer un petit peu des cheveux coupés en tous les millimètres.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, ça fait une espèce de pas de poudre, mais en fait de fibre.
Oui.
Et ensuite, j'allais extraire dans les atomes de carbone dans du brai. Donc, le brai, soit c'est du brai de houille ou de pétrole.
Oui. Mm-hmm.
Donc, le brai, c'est une substance noire, un petit peu ce qu'on trouve sur les batteries de voitures. Je sais pas si vous voyez, mm-hmm, un petit peu.
Mm-hmm.
Maintenant, bon, peut-être que ça se fait beaucoup moins. Et donc mais il y a toute une alchimie, hein. Ça veut dire que moi j'avais l'avantage d'utiliser les machines de cette société, j'avais l'accord donc de la hiérarchie,
oui, 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 oui,
et de la direction, donc il n'y avait pas de problème.
Mm-hmm.
Mais c'est toute une alchimie, il fallait faire pénétrer ce carbone, ensuite il fallait le faire le faire chauffer pour le carboniser. Et ensuite, j'ai fait graffiter. Graffiter, c'est monter à 3000 degrés, presque. C'est quelque chose d'important.
Ouais.
Alors, pour situer, la mine de crayon, c'est comme le carbone, c'est comme la mine de crayon.
D'accord. Okay.
La mine de crayon, c'est du graphite.
Mm-hmm.
Et le carbone-carbone peut être aussi graphite. Voilà.
D'accord.
Ça ressemble à de la mine de crayon.
Mais dites-moi, les sculptures doivent être extrêmement petites, alors?
Alors, j'ai fait des petites sculptures en carbone-carbone. Et puis ensuite, pour pouvoir faire des plus grosses sculptures, j'ai utilisé des résines.
Mm-hmm.
Donc, j'ai utilisé donc les fibres courtes mélangées avec des résines. Et ça me permettait donc de faire des sculptures de plus grande dimension. J'en ai fait jusqu'à 4 mètres de haut.
Ah oui, quand même.
Voilà, oui.
D'accord. Gérard, une dernière pause et dans la toute dernière intervention, vous allez nous expliquer où vos recherches vous ont amené votre théorie, parce que ça vous a permis d'abord de chercher dans ce sens, de remonter le temps, vous nous l'avez dit sans cesse, on sent que chez vous c'est quelque chose de très important, vous avez exploré la physique quantique et vous avez émis une théorie concernant la création du monde, ni plus ni moins, le démarrage du Big Bang, quoi, en quelque sorte.
Voilà, oui.
Nous sommes ensemble dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Une pause et on se retrouve à tout de suite.
Les Aventuriers de l'Étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
Gérard de Bordeaux est en notre compagnie dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. C'est la toute dernière ligne droite ensemble, Gérard. Alors, je vais vous demander d'être d'abord indulgent, vulgarisateur, simplifié au maximum. Je prends toutes les précautions, vous avez remarqué. Hein.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on aborde l'arbre, bon, ça passe. Mais encore que l'art sur le carbone, c'est pas évident, parce qu'on parle d'atomes, de molécules, c'est pas évident non plus.
Voilà.
Mais la science sur les particules élémentaires, c'est encore plus difficile, oui.
Voilà. Alors, il va falloir que vous me parliez gentiment comme un garçon de 9 ans, pour que je comprenne.
Alors, normalement, quand j'explique ça aux enfants, ils comprennent.
Bon, parfait. Alors, j'ai une chance d'y arriver. Gérard, qu'est-ce qui vous a emmené à vous intéresser à ce problème de physique et d'astronomie?
Et d'une part, c'est déjà comprendre.
Oui.
Bon, d'abord, par rapport à l'NDE, bon, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, comprendre cette boule qui était en feu en rotation.
Cette dernière image que vous avez eue. Ouais.
Voilà, donc maintenant, j'ai l'explication. Mais pour ça, bon, mais maintenant je peux en parler, mais il a fallu que je remonte le temps, et il a fallu beaucoup de temps pour remonter ce temps.
Mm-hmm.
Donc j'ai essayé, par rapport à l'électron, je disais, je me mets à la place 2, et là je me suis dit, au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Donc je me suis mis à la place de l'univers quand il n'y avait rien. Ou pour dire, je suis une particule. Alors, pour comprendre les choses, d'abord, les lectures, toutes les lectures scientifiques me convenaient pas parce que je ne trouvais pas de réponse.
Mm-hmm.
Et j'essayais de comprendre. Alors, j'ai réfléchi ou pensé, et il en sort une théorie. Alors, je pense que la création, bon, l'univers d'abord est infiniment grand, il n'a pas de fin. Donc, on peut considérer qu'il existe l'univers infiniment grand, mais nous avons notre univers observable.
Mmh.
Et tout se fait par rapport aux théories des extrêmes.
L'infiniment grand d'un côté, oui, l'infiniment grand d'un côté et l'infiniment petit de l'autre.
Voilà, tout se passe avec ces échelles d'infiniment grand, infiniment petit.
D'accord.
Alors, si on dit, si on remonte le temps à notre époque, c'est-à-dire si on dit aujourd'hui nous sommes là, donc au moment donné, il y a eu un départ.
Mm-hmm.
Donc les scientifiques pensent qu'il y a un Big Bang. Bon, pour moi c'est pas un Big Bang, vous allez le voir tout à l'heure. Si on regarde l'univers c'est comme le ciel, les petits points blancs comme des étoiles.
Mm-hmm.
Et en fait chaque étoile correspond à un univers comme le nôtre.
Oui. Mm.
Aujourd'hui.
Oui.
Alors si on remonte le temps, dans le temps au zéro, en fait il y avait une particule qui s'appelle une particule antagoniste qui vibre entre l'infiniment petit. C'est-à-dire que pour être infiniment petit, plus on veut aller dans l'infiniment petit, au moment donné, cette particule aura tendance à vibrer entre le vide et son inverse, qui est l'antivide. Donc la particule va être antagoniste. Pourquoi ? Parce qu'elle vibre entre le vide et l'antivide.
Mmh.
Mais ces particules le sont. Alors, je ne connais pas le rapport qui existe entre une particule infiniment petite et un espace beaucoup plus grand, parce que tout se lie entre ces infiniment grands et infiniment petits. Donc, ça veut dire peut-être qu'il y avait une particule antagoniste tous les mètres ou tous les kilomètres, je ne sais pas. Dans l'univers se trouvait comme ça, avec plein de petites particules antagonistes. Mais comme ces particules antagonistes, elles vibraient dans l'antivide, cet antivide, c'est comme un petit trou noir. C'est-à-dire qu'elles vont aspirer, s'aspirent. Mmh. Et toutes ces particules dans l'univers auront tendance à se rassembler dans les milliards d'années, vont se rassembler, pour se réunir en formant une grosse boule. Une grosse boule de particules antagonistes. Alors on pourrait dire que cette grosse boule, c'est un trou noir. Parce qu'en fait, ce sont des particules qui vibrent, mais comme il y a l'antivide, tout a tendance à se rapprocher les unes contre les autres. Donc ça fait un espace de gros trou noir. Mm-hmm. Alors comme tout à l'heure, je vous parlais de différence entre un infiniment grand et un infiniment petit. Au moment donné, notre univers va être en désaccord, parce que comme il est comblé d'une grosse boule d'antivide, il va être en désaccord, et à ce moment-là, il va casser cette échelle de infiniment grand, infiniment petit, et il va se passer une résonance.
Une résonance?
Donc cette résonance, pour moi, c'est ce que les scientifiques appellent le Big Bang.
Mmh, d'accord.
Donc ça va pas faire un bang, mais cette résonance va casser les particules antagonistes en deux. Mmh. C'est-à-dire qu'on va les séparer. Donc d'un côté, nous aurons une particule de vide, et de l'autre côté, nous aurons une particule d'antivide. Mm-hmm. La particule de vide s'appellera l'électron, et la particule antivide s'appellera le positron. Donc ce sont deux particules qui sont opposées. Mm-hmm. Donc dans cette résonance, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les particules vont être séparées sur l'infiniment grand, mais le problème qui va se passer, c'est que les positrons, ces antiparticules, auront tendance à aspirer les électrons. Et de ce fait, ces deux particules vont se rencontrer et vont s'annihiler, c'est-à-dire elles vont se détruire. Mm-hmm. Et dans cette destruction, elles vont créer deux photons normalement. Et à la place de cette annihilation de particules, il va laisser une empreinte, et cette empreinte s'appellera le neutrino.
D'accord.
Donc de cet instant, il est parti une gerbe de lumière, parce que toutes les particules se sont donc réunies et s'est annihilées, donc détruites. Ça crée une énorme gerbe de lumière. Donc déjà, la lumière, qui dit lumière, donc c'est de l'énergie.
Ouais. Mmh.
Donc il y a eu de la chaleur, et il y a eu un rayonnement cosmique que l'on a toujours actuellement. Hein.
Mmh.
Alors dans toutes ces particules, il y en a beaucoup qui sont détruites, bien sûr, pour fournir toute l'énergie du système, de notre système. Et il y a eu quelques rescapés. Alors des rescapés, il y a eu... Parce que les antiparticules auront tendance à toujours aspirer, et elles vont aspirer des neutrinos. Et lorsqu'une particule positron attire un neutrino, ça isole le positron. C'est-à-dire qu'après, le positron pourra s'unir avec un électron.
Mmh, d'accord.
Donc ça va devenir des particules composites.
Ouais.
Par trois.
Ouais, ouais.
Et ensuite, vont s'additionner par neuf pour former les quarks. Alors là, plus les particules s'additionnent, plus ça devient complexe.
Oui.
Parce qu'imaginez, chaque particule a une définition de force, une force qui attire ou une force qui pousse ou qui attire. Bon, le positron, lui, il attire. L'électron, il pousse ou il attire. Mm-hmm. Alors ça, là, il y a énormément de... C'est très complexe parce qu'il y a des formules mathématiques qui rentrent en ligne de compte.
Mais
c'est très complexe.
Dites-moi, Gérard, est-ce que vous avez eu la possibilité d'en parler avec des physiciens de cette théorie, de cette hypothèse que vous avez émise?
J'ai eu quelques scientifiques, mais en fait, quand je leur parle de particules élémentaires ou de neutrinos, mm-hmm. bon, au départ, ils sont favorables à m'écouter parce que oui, ils connaissent. Et quand j'aborde vraiment la question des particules, la formation des quarks, des formations des particules ou avant le Big Bang, là, il n'y a plus personne. Je n'ai pas rencontré un scientifique qui puisse m'écouter pour en parler. Malheureusement, mais j'espère que votre émission, il y aura un scientifique.
Écoutez, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'ils n'adhèrent pas à votre hypothèse, ils disent non, c'est trop farfelu, ou alors...
C'est trop simple, voilà.
Ah, ils trouvent que c'est trop simple.
C'est trop simple. Alors bien sûr, ma réponse, c'est de dire, bon, mais l'univers, notre vie, heureusement qu'elle est basée sur quelque chose de simple, parce que l'intelligence, c'est la simplicité.
Mmh, mmh.
Donc on peut pas. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ma théorie de particules jusqu'à la fin, jusqu'à la création de l'espèce vivante, tout se reboucle et finira par se reboucler jusqu'à la fin des particules. Donc il y a un sens dans la démarche et il y a un sens dans la fin de la création.
Mmh. Ouais, ouais. Et ce contact avec les scientifiques vous a laissé sur votre faim, parce que dire simplement c'est trop simple, au revoir monsieur, c'est effectivement un peu court.
Oui, alors justement, il y a j'ai un projet qui est sur internet qui s'appelle Positron, parce que c'était pour définir la cause de la force de gravitation.
Mmh.
Aujourd'hui, on connaît les effets. Et il y a un projet, j'ai même proposé dans une grande société, sans la citer, européenne sur l'espace, pour faire un projet pour comprendre l'origine de la force de la gravitation.
Ouais.
La cause de la force de la gravitation.
Mais dites-moi Gérard, vous avez parcouru un sacré chemin quand même depuis 1971.
Ah oui, énormément. Oui, parce que pour vous dire que je passais énormément de temps à écrire, à réfléchir. J'ai passé beaucoup de vacances à étudier, à écrire. Et comme vous le savez, les vacances, ça dure que dans l'année, il n'y a que 30 jours.
Oui, mais oui.
Ça veut dire que j'écrivais une année et l'année après, je trouvais ce que j'avais fait n'était pas bien, donc je refaisais. Donc j'ai sorti un ouvrage c'était en 2003, qui s'appelle « Nos origines à partir du rien
».
Et donc je parle dans toute ma théorie.
Oui, oui.
Et ensuite, j'ai développé la tendance de l'art quantique en 2005. C'est une nouvelle tendance qui parle de l'art et de la science.
Hein. Mmh, oui, tout à fait. Et est-ce que finalement, vous ne regrettez pas tout ce chemin parcouru?
Ah ben, je pense pas. Non, c'est tellement fascinant de pouvoir aborder la création, c'est fascinant, oui. Donc, il n'y a pas de regret possible.
Ouais. Est-ce qu'on peut conclure, parce que malheureusement, ça va être l'heure de conclure, mais est-ce qu'on peut conclure que, en 10 ans, vous m'arrêtez, hein, si je dis selon vous une bêtise,
j'en sais, oui.
Que cette électrification, finalement, a donné un sens à votre vie?
Je peux, parce qu'en fait, si j'avais pas eu cette électrification, j'aurais été différent et, peut-être que j'aurais été mieux différemment, mais
bien sûr.
Mais maintenant, tel que je suis, non, parce que je pense qu'on a un but. Chaque individu a un but dans la vie, ou si on l'a pas, il faut se le donner.
Ouais.
Et je pense que c'est important, oui.
Ouais. Gérard, en tout cas, j'ai passé vraiment 3 quarts d'heure très intéressants en votre compagnie, vraiment. Est-ce qu'il y a, puisque vous êtes sculpteur également, est-ce qu'il y a un endroit, un lieu où l'on puisse voir vos sculptures justement?
Alors, pour le moment, je suis à Bordeaux, donc pour le moment, je suis en train d'installer une galerie sur la région bordelaise. Sinon, à Bordeaux, il y a le musée de Jean Moulin, où il y a beaucoup de sculptures faites à partir de sable.
Ouais.
Si vous êtes à Marseille, il y a le musée de la mode, où j'ai fait le premier textile en carbone.
D'accord.
À Paris, c'est pas évident, parce que c'est dans un lieu personnel, donc c'est pas évident.
Venez
aux États-Unis, voilà, donc j'allais un peu partout, mais c'est pas évident aussi à trouver.
D'accord.
Et il y a un site internet.
Oui.
Voilà.
Et l'adresse de ce site, si vous l'avez en tête?
Ça s'appelle ADN. Le mieux, c'est d'aller sur Google et puis taper Servant Hermès.
D'accord.
Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps, parce que j'aurais pu vous parler de ce neutrino qui est la particule mémoire, et c'est la particule qui est la particule qui donne la vie et qui se trouve dans le cerveau et qui mémorise tout, voilà. Donc on n'a pas toujours le temps de...
Malheureusement. Mais en tout cas, j'invite ceux et celles qui nous écoutent à aller sur Internet, à taper donc Servant, S-E-R-V-A-N, c'est ça?
V-A-N-T.
Ah, V-A-N-T, Servant, V-A-N-T, Hermès comme Hermès.
Non, pas du tout, il n'y a pas d'H. Donc c'est E-R-M-S, Hermès.
E-R-M-S.
Voilà.
Ah, d'accord. Servant avec un T à la fin.
Voilà.
Hermès, E-R-M-S.
Voilà. Sinon, vous tapez sculpteur sur carbone, comme je suis le seul.
Ouais.
Il y a des pages qui me ramènent, parce que des sites, je dois avoir 4 sites d'art, donc, c'est pas évident à trouver, oui.
D'accord. Merci beaucoup, Gérard, en tout cas.
Merci. Louis, donc, mais au plaisir alors.
Ah ben, avec
merci
grand plaisir.
Radio.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
Rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les références pour aller voir les sculptures au carbone de Gérard, servant Hermès donc de Bordeaux, il y aura toutes les références sur le site des aventuriers de l'étrange, psiland.org, psiland.org. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou début de nuit, selon, à l'écoute de la rediffusion des programmes de Sud Radio. Et quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons toujours avec autant de plaisir, en tout cas en ce qui me concerne, pour vous aussi, je le sais, car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les aventuriers de l'étrange. On se retrouve avec grand plaisir vendredi et samedi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. Et si vous voulez m'écrire, vous le savez, étrange@sudradio.fr. À la semaine prochaine.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.